Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La crise sociale aux Antilles dans l'impasse ce matin. Échec des négociations hier en Guadeloupe, à tel point que le gouvernement envoie des gendarmes supplémentaires sur l'île. Le ministre des Outre-mer espère maintenant des discussions plus fructueuses en Martinique où il vient d'arriver. Le récit de notre envoyé spécial dès le début de ce journal. Lui revient d'Afrique australe, un premier Français positif à Omicron sur l'île de la Réunion. L'annonce de ce nouveau variant a-t-elle un effet sur la campagne de rappel vaccinal? Reportage à suivre. Au sommaire aussi, les victimes de prêtres pédophiles consternées par les critiques contre le rapport Sauvé. Et au cinéma, un biopic sur la famille Williams, les deux sœurs reines du tennis et surtout leur père qui avait tout imaginé avant même leur naissance.
Et au micro d'Yael Gauze dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui le député LREM des Hauts-de-Seine, conseiller politique du président de la République. J'ai nommé Thierry Solaire.
France Inter.
Des forces de l'ordre supplémentaires, Alexis, vont être envoyées en Guadeloupe.
Annonce surprise de la nuit, 70 gendarmes mobiles, 10 militaires du GIGN pour tenir et poursuivre les déblocages, selon les mots de l'exécutif. Nouveau signe, s'il en fallait un, du dialogue de sourds persistant entre l'intersyndicale et l'État. Après deux semaines de crise sociale, c'est sur un constat d'échec que le ministre des Outre-mer a quitté l'île cette nuit pour rejoindre la Martinique voisine. Le récit sur place de Yann Gallic.
À quoi aura servi cette visite éclair de Sébastien Lecornu ? À rien, si ce n'est remettre de l'huile sur le feu, estime Jocelyn Sapotille, le président de l'Association des maires de Guadeloupe, fait partie des élus qui ont finalement refusé de rencontrer le ministre des Outre-mer.
On a senti qu'il y avait un message qui pouvait aussi laisser entendre que, grosso modo, c'est le problème des élus locaux. Ce n'est pas pour nous une façon d'apaiser. Donc quand on laisse entendre que c'est le problème des élus locaux, ben, ceux qui sont sur le terrain vont dire on n'est pas sorti du conflit et ça va encore attiser le conflit.
Mais Sébastien Lecornu assume pleinement sa stratégie. Le ministre rappelle qu'ici, la plupart des revendications sont de la compétence des collectivités locales.
Ce qui est compliqué, c'est de se faire engueuler pour des choses dont l'État n'a jamais été responsable. Faut remettre aussi un peu de justice dans tout ça. Faut que le citoyen contribuable, usager du service public, il soit bien informé aussi de qui fait quoi. Alors là, je vois bien aussi certains qui vont commencer à s'offusquer. Oui, le ministre est en train de se défausser sur les élus. Mais je dis non. Je pense qu'il faut que chacun soit à sa place dans ce territoire.
Si l'objectif était de trouver une issue à la crise actuelle, cette visite ministérielle a tout l'air d'un échec. Mais s'il s'agissait de mettre les élus guadeloupéens face à leurs responsabilités, alors Sébastien Lecornu aura finalement réussi à faire passer son message.
Yann Gallic, envoyé spécial d'Inter aux Antilles. Sébastien Lecornu est donc ce matin en Martinique où les négociations pourraient se dérouler sous de meilleurs auspices, car avant même son arrivée, syndicats, élus et préfectures ont signé un accord de méthode pour de futures discussions.
Et c'est donc sur l'île de la Réunion, il est 7h33, qu'un premier cas français du variant Omicron vient d'être identifié.
Un quinquagénaire revenant d'Afrique australe, il souffre de symptômes légers, douleurs musculaires, fatigue, l'homme est placé à l'isolement ainsi que son entourage. Omicron qui se répand déjà un peu partout sur la planète, on le signale ces dernières heures au Canada, en Australie, avec toujours de nombreuses inconnues, son niveau de dangerosité et de résistance éventuelle au vaccin. Mais pas de quoi remettre en cause en France la campagne pour la troisième dose, bien au contraire. Pour le Conseil scientifique, réduire le niveau actuel de la cinquième vague est un impératif. Tout ce qui sera fait contre Delta sera utile contre Omicron. Les Français en sont-ils convaincus ? Mathilde Dehimy leur a posé la question à Paris. Reportage.
L'arrivée soudaine du nouveau variant Omicron a surpris Jérémy.
Je ne sais pas comment il est sorti d'un coup.
Mais pas question pour l'instant de changer son mode de vie.
Ça fait déjà 2 ans, donc on est habitué de vivre comme ça et on fait avec, on essaie de s'adapter.
S'adapter, un brin sur la défensive et résigné. Alain, soignant de 64 ans, surveille de près Omicron.
On sait pas, mais qu'il soit plus contagieux veut pas dire qu'il soit plus dangereux.
Principale préoccupation, trouver pour ceux qui arrivent aux 5 mois de schéma vaccinal un créneau pour une troisième dose de rappel. Jean-Pierre a décroché hier un rendez-vous pour mi-décembre.
Pour ma liberté surtout, pour pouvoir continuer à faire et à vivre comme j'entends. J'ai pas du tout peur du nouveau variant, non.
Eva, elle, ne se précipite pas pour trouver une date.
Je crois que je peux attendre jusqu'en février, donc je vais attendre d'ici là et voir s'il est efficace contre le nouveau variant, pour éviter que dans 2 mois, ils me redisent qu'il faut refaire une dose.
Beaucoup de questions sans réponse encore. Il faut un peu de patience, explique-t-on chez les professionnels de santé débordés par les coups de fil. Cette pharmacienne enchaîne tests PCR et vaccination.
Si une ou deux semaines, les rendez-vous vont s'ouvrir. Les professionnels de santé auront eu le temps de commander leur vaccin. Les les centres de réouvrir, de réengager du personnel pour vacciner, etc. C'est juste que ça ne se fait pas en 12 heures.
Elle a dû fermer un peu plus tard devant les sollicitations. D'autres pharmaciens ont choisi de s'accorder un jour de pause pour souffler avant de reprendre les vaccinations.
Ce matin, le taux d'incidence en France est de 292 cas Covid pour 100 000 habitants. C'est nettement moins qu'en Allemagne, qui dépasse les 450 cas pour 100 000. Le pays n'a jamais vu une telle flambée. Angela Merkel et son successeur à la chancellerie Olaf Scholz réunissent aujourd'hui les chefs des régions allemandes pour envisager un nouveau durcissement des restrictions. Et de nouveau, un secteur tremble. C'est le tourisme qui déjà peine à se remettre des 20 derniers mois de crise. À l'image d'un mastodonte français, le groupe Pierre et Vacances et ses filiales, Center Parcs, Adagio, Maeva. Son état de santé financière inquiète nombre d'observateurs du secteur depuis quelques semaines. L'entreprise doit annoncer ses résultats après-demain. Qu'en est-il réellement, Philippe Lefebvre ?
Ce n'est pas un secret, l'entreprise qui propose 48 500 logements sur 282 sites dans l'Hexagone a été fragilisée par les fermetures à répétition depuis le début de la crise sanitaire, générant une perte de chiffre d'affaires de 800 millions d'euros. Ajoutez à cela un problème de taille spécifique au modèle Pierre et Vacances, celui des loyers que doit, en théorie, verser l'entreprise aux propriétaires des appartements. Mais les sites ayant été fermés ou ayant accueilli très peu de clients durant 16 mois, il était quasiment impossible pour elle de verser ses loyers. Un accord pourrait toutefois intervenir autour du paiement de 11 mois sur 16 d'ici la fin de la semaine. Et si la situation du groupe est préoccupante, elle n'est pas désespérée, d'autant que les Center Parcs, pour ne prendre que cet exemple, ont connu l'été dernier un taux de remplissage supérieur de 15% à celui de 2019. Et pour l'hiver, les niveaux de réservation seraient plutôt bons. Une situation qui devrait inciter un investisseur à rejoindre le capital du groupe familial pour l'aider à trouver le chemin de la rentabilité.
Le tourisme en difficulté, alors que dans d'autres secteurs plus en forme, ce sont les tensions salariales qui se multiplient sur fond d'inflation. Chez Leroy Merlin, la direction doit recevoir les syndicats aujourd'hui, après 10 jours d'un mouvement social inédit pour l'enseigne de bricolage. Des salariés bloquent des entrepôts et débraillent dans certains magasins. Ils réclament des hausses de salaire plus conséquentes que les propositions de la direction. Elle est l'incarnation de l'esprit français, a dit d'elle Emmanuel Macron pour justifier son choix. 46 ans après sa mort, Joséphine Baker rentre au Panthéon cet après-midi, une première pour une femme noire. Édition spéciale dès 17h sur Inter. La cérémonie, elle débutera une demi-heure plus tard avec rue Soufflot, la remontée du cénotaphe, c'est-à-dire d'un cercueil sans corps. Les enfants Baker ont souhaité que leur mère reste enterrée à Monaco. Les chœurs de l'armée interpréteront ses chansons les plus connues avant que les grands épisodes de sa vie défilent sur écran géant. Et il y en a des épisodes dans l'existence de Joséphine Baker, de l'artiste internationale de musical à la résistance, en passant par la militante antiraciste. C'est une offensive qui sème le trouble 2 mois après la publication du rapport sur les abus sexuels dans l'Église. 8 membres de l'Académie catholique de France, une organisation d'intellectuels, mettent en cause certaines conclusions de la commission Sauvé. Ils s'en prennent notamment à l'estimation du nombre de victimes, 330 000 au total, et récusent le caractère systémique de la responsabilité de l'Église. Des critiques envoyées au pape, mais vivement dénoncées ces dernières heures par des responsables catholiques, mais aussi et surtout par des victimes, Rémi Brancato.
Olivier Savignac s'attendait aux critiques du rapport Sauvé. Le fondateur de l'association Parler et Revivre, victime d'abus par un prêtre, se dit en colère de voir remise en cause la responsabilité systémique de l'Église.
Il nie complètement le statut qui est un dû à l'égard des victimes de la part de l'Église. Ce statut de la responsabilité de certains auteurs, mais aussi d'une institution qui a caché, dissimulé ses faits, qui s'est retrouvée en fait complice.
Pour les auteurs de ce texte adressé au pape, une commission indépendante extérieure, donc à l'Église, ne peut pas guider ses réformes internes. Ils disent craindre qu'elle soit ruineuse pour l'institution. Une réaction conservatrice, dénonce Olivier Savignac.
Quand on lit ces 15 pages, on assiste plutôt à l'allégeance profonde à un système passé, à une Église qui aujourd'hui n'est plus à la page. Ça représente une partie très marginale des catholiques traditionnalistes ou conservateurs. Ça m'étonne pas, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de personnes blessées par le fait que cette église a été humiliée, traînée dans la boue, comme ils le disent.
Les principales autorités de l'église, en revanche, défendent le rapport Sauvé. La conférence des évêques de France en tête, son président Éric de Moulin-Beaufort, insiste dans une tribune dans le journal. journal La Croix sur l'importance d'écouter les victimes pour avancer.
Pierre Ménès, visé par une enquête pour agression sexuelle, enquête ouverte il y a 10 jours contre l'ancien chroniqueur de Canal+, après le match PSG-Nantes. C'est une hôtesse d'accueil du stade qui aurait signalé les faits à la police, accusant le journaliste sportif de lui avoir touché la poitrine, mais sans porter plainte.
Il est 7h40 au cinéma cette semaine, Alexis. L'histoire incroyable, mais bien vraie, des sœurs Williams.
La méthode Williams, c'est en salle demain, qui nous raconte plus particulièrement les rêves et les ambitions de Richard Williams, le père des deux championnes américaines de tennis. Un biopic captivant, émouvant. On découvre à quel point papa Richard a conçu très tôt un plan bien ficelé pour la carrière de ses filles. Adèle Belloumri.
Vénus et Serena vont changer ce monde.
Richard Williams en était convaincu et l'histoire lui a donné raison. Grâce à un minutieux plan de 78 pages élaboré avant la naissance de ses filles, ce père déterminé a façonné les deux légendes du tennis.
Il faut juste qu'on s'en tienne au plan, on a des championnes dans la pièce à côté.
La méthode Williams, c'est une histoire vraie, inspirante d'un père dévoué et protecteur, souvent jugé trop dur.
On a des futurs médecins, des futures avocates et deux futures stars du tennis dans cette maison. Ça m'ennuie pas que vous disiez qu'on est dur avec elles. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on l'est.
Pour Patrick Mouratoglou, l'actuel coach de Serena, Richard Williams n'a pourtant rien d'un tyran.
Je dirais pas que Richard Williams était dur, je dirais qu'il était déterminé. Qu'il les a emmenés depuis toute petite sur un chemin, un projet, une idée, un rêve, et sans laisser le moindre espace pour le doute. En tout cas, la réussite de son projet et le fait qu'il ait gardé une relation comme ça avec ses filles après tant d'années montre que finalement, il s'y est plutôt bien pris.
Parce qu'avec Richard, ne pas planifier, c'est planifier son échec.
D'ailleurs, il m'a dit un jour, quoi qu'elles aient fait, elles auraient été numéro 1. Parce qu'elles ont une telle confiance en elles que ça aurait marché de toute façon.
Aujourd'hui encore, à 41 et 40 ans, Vénus et Serena jouent toujours au tennis, preuve que leur père Richard ne les a pas dégoûtés.
Autre grand champion en football, Lionel Messi, sacré ballon d'or hier soir pour la 7e fois à Paris. Côté femme, c'est la capitaine du Barça, Alexia Putellas, qui décroche la récompense. Et puisqu'on en est au trophée, en voici un autre en cuisine. Hugo Rollinger, élu cuisinier de l'année ce matin par le Goemio. Le breton de 33 ans, fils d'Olivier, autre grand nom de la restauration, est à la tête du Coquillage, restaurant 2 étoiles près de Cancale. Selon le Goemio, sa cuisine pulvérise les codes, rien que ça.
Bah, c'est déjà pas mal, ouais. Alexis Morel, merci. L'édito politique.